Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte, et cette semaine, je reçois Olivier Delafosse, aussi connu sous le nom d'Oldelaf. Oldelaf est chanteur et ses chansons sont drôles. Alors pas toujours drôles, parfois mélancoliques, mais il y a toujours cette petite vibe au fond de ses chansons qui le rend à mes yeux attachant. Alors si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à découvrir son univers. Je vous mettrai plein de liens dans les notes du podcast. Dans cet épisode, on parle ensemble de sa famille recomposée, de ses deux fistons, de son amour d'enfance pour la musique et comment il vit par exemple le fait que ses enfants n'ont pas encore tout à fait trouvé le même intérêt pour la musique. Avant de passer à l'épisode, si vous avez des questions à me poser, je vais bientôt faire un épisode spécial où je réponds à vos questions. J'ai posté une petite image sur Instagram, je vous mets le lien dans les notes. Si vous avez une question, c'est le moment ou jamais. Sinon par email, histoire avec un S, de Daron avec un S, @gmail.com, n'hésitez pas. Et si vous aimez Histoire de Daron, surtout n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes avec 5 étoiles si c'est possible, ou sur vos applis de podcast préférés. Mais aussi, vous pouvez poster un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Alors j'ai aussi une chaîne YouTube où je mets les épisodes, si vous êtes plutôt dans le YouTube game, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement comme ils disent. Et enfin, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Merci d'avance et je vous laisse avec Oldelaf.
C'est vraiment c'est très peu cut en fait, en plus. Donc,
très bien.
Sauf s'il y a des trucs que tu veux pas dire.
Mais des putes
ouais, c'est bon, je me suis débarrassé de...
de tourette, c'est ça
ouais, c'est ça.
Ça doit être compliqué au quotidien.
Ouais, mais moins chiant finalement que d'avoir un bras en moins.
Alors oui, parlons-en.
On peut commencer par ça.
Ce matin, tu viens donc chez Mademoiselle.
Ouais.
Comment tu vas? Tu fais ça va pas du tout, mais je vais te raconter. Je fais oh bordel. Et puis je te vois avec cette écharpe.
Voilà, une écharpe, on va dire une attelle qui m'entoure le bras droit. C'est que j'ai été hier victime d'un excès de zèle de la part d'un chirurgien de l'épaule qui devait faire juste contrôler ce que j'avais et qui a pris sur lui de m'opérer, et ça arrive la veille du début de la tournée en pleine promo, et je peux plus jouer de guitare, je peux plus manger tout seul, m'habiller, c'est une tannée absolue. Et donc il y a pour le sujet qui nous intéresse, par exemple, c'est moi qui le matin amène les enfants à l'école en voiture, je ne peux plus conduire, et donc ce truc-là, c'est comme un cauchemar, mais qui impacte non seulement la tournée. Là, on est en train de trouver des solutions pour trouver un guitariste de remplacement, mais pour demain, tu vois.
Oui.
Ça que c'est la science-fiction vraiment. C'est qu'il y a un set complet d'1h45 où un mec il va devoir apprendre 20 morceaux, des transitions. On doit lui trouver un personnage, de la mise en scène, tout en
24 heures.
Voilà, en 24 heures. Et donc c'est un cauchemar, mais on va le faire comme on a toujours fait les trucs. Mais en revanche, tu vois, ce truc-là impacte aussi ma compagne qui, le matin, je peux pas aider à habiller les mômes, je peux pas aider à leur faire un petit déjeuner, je peux pas aider à les conduire. C'est plus que, voilà, enfin, c'est, on a toujours des tâches réparties et on s'organise pas trop mal le matin. Et là, c'est une tannée et je me sens comme une merde. Je peux regarder tout le monde en disant je vous aime. Voilà.
Mais quand tu dis il a pris sur lui, c'est-à-dire qu'à aucun moment il t'a...
Jamais, j'étais au courant qu'il allait avoir ça, donc c'est...
Il t'a dit qu'il allait t'opérer, quoi.
Ouais, enfin je savais qu'il y avait cette intervention, qu'on a calé ensemble, mais ça devait être juste un truc, il devait aller voir dans les poils avec une caméra, une arthroscopie, mais si à un moment il m'avait dit que ça allait prendre, mais ne serait-ce que 5 jours, je l'aurais pas fait là, puisque...
Tu pars...
Et là c'est un mois d'arrêt
promo,
total, c'est ça, plus la rééducation, c'est grave en fait, c'est vraiment grave ce qu'il a fait. Voilà. Bon bref, on va pas parler de ça.
Waouh, c'est fou quand même. Bon, en tout cas, je suis très heureux de te recevoir dans Histoire de Daron, parce que je te suis depuis un petit moment.
C'est vrai, je voudrais que tu arrêtes de me suivre maintenant.
Laissez-moi tranquille.
Les enfants s'inquiètent de voir tout le temps ce type, ce chauve qui nous suit partout dans la rue. Il faut que tu trouves ton espace à toi, que construis-toi de ton côté. Tu peux pas tout baser sur ma vie et sur essayer de prendre ma vie.
Ça m'intéresse vraiment, ta vie, elle est passionnante.
Oui, c'est vrai.
Tu sors la dernière, il y a quelques jours,
c'est ça ? Il y a une dizaine de jours. Ouais.
Ton nouvel album qui s'appelle Goliath.
T'es mort de rire.
Cette histoire, mais vraiment.
Oui, je sens que ça t'atteint.
Ça me scie en fait, parce que je suis vraiment complètement en empathie avec toi. Je me dis, si la même chose m'arrivait moi demain,
voilà.
Qu'est-ce qui se passe ?
Exactement.
Je me suis fait le film de... Je n'imagine même pas pour toi le truc avec la tournée derrière.
Il faut réaliser ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que hier, c'est un coup de massue qui m'est tombé dessus. Et en effet, parce que cet album est sorti il y a une semaine, ça peut pas être un pire moment dans ma carrière. En plus, il y a eu un très bon début.
Ça marche bien.
Voilà, c'est très très encourageant. Et du coup, il y a des promos qui sont en conséquence.
Tu vas chez Patrick Sébastien, tu disais.
Voilà, chez Nagui.
Tu veux y aller avec ton bras en écharpe.
Qu'est-ce que tu veux faire, tu vois, c'est terrible. C'est terrible. Et voilà, mais bon, il y a des choses plus graves, hein, tu vois, mais on va trouver des solutions, il y a des gens qui vont me remplacer. Mais le gars, si j'étais boulanger, par exemple, qu'est-ce qui se passerait? Si j'étais chauffeur de taxi ou routier, enfin, tu vois, t'es pas au courant et tu t'organises pour faire un truc comme ça, quoi. Tu dois te libérer 3 mois de ta vie, sûr, quoi, tu vois, et c'est pas du tout la période, c'est la pire période en ce moment. On part au taquet, je te dis, demain Toulouse, après-demain Montauban, après-demain Arnage à côté du Mans, et c'est toute la, enfin, la semaine prochaine est encore pire, donc voilà.
Waouh. Bon, parlons de ta vie de papa.
Ouais.
Donc
j'ai plus envie.
je quitte tout.
Ouais, c'est ça.
Tu me disais tout à l'heure que tu avais 2 enfants et demi, c'est ça ?
C'est exactement ça.
tu es dans une famille recomposée.
J'ai donné 2 fois la petite graine et puis j'ai donné 3 fois mon cœur. Voilà.
Oh, c'est trop beau. Ok mec, ce sera le titre de ton histoire de daron.
Quand je me suis mis en couple avec ma compagne, elle avait déjà une petite fille de 3 ans. Et donc elle était en train de se séparer avec son papa. Et donc j'ai tout de suite pris un pack famille. Moi. On n'a pas eu de période d'essai, de période de où on a fait des voyages, où on est sortis juste ensemble. On a tout de suite été une famille. Assez vite, elles sont venues s'installer à la maison. Donc, il a fallu tout de suite trouver des chamboulements, des chambres d'enfants. Et avant même de moi penser à devenir père, j'étais déjà père un petit peu, tu vois. J'étais beau-père et ça se passait très bien avec la petite. Mais voilà, je suis rentré dans le bain direct. En fait, finalement, ça se passait mieux presque avec la petite qu'avec la maman parce que moi j'ai toujours estimé que avec un enfant c'est à chacun de créer ses propres règles du jeu, en fait, y compris quand c'est pas ton enfant, quand tu dois lier un rapport avec des règles, des limites, des trucs de confiance, de tendresse, de machin. Et la maman, c'était beaucoup d'informations à la fois, en fait, pour elle. Et quand je faisais preuve d'autorité, c'était très violent. Et bien plus qu'avec la petite, parce que on s'adorait et que juste que quand il y avait à gueuler parce qu'il y avait un truc qui allait pas, je gueulais et la maman le faisait aussi, hein. C'était même pas sur des contre-indications de.
C'est juste qu'elle considérait que c'était pas.
Mais c'était pas forcément
rôle.
Mon rôle et moi je ne pouvais pas prendre le rôle d'homme de la maison et de beau-père sans mettre mes limites à moi, et c'est-à-dire qu'ils n'étaient peut-être pas les mêmes que son père à elle, mais c'était hors de question que je fonctionne comme mec qui est dans la maison, et voilà. Et je sais que pour le coup j'ai toujours une grande expérience des enfants. J'ai moi-même été animateur,
Fait le BAFA.
J'ai le BAFA, voilà, j'ai été longuement animateur. Alors c'était plutôt des moments un peu plus grands, mais j'ai toujours été attiré par les enfants, je dirais de manière tout à fait légale. Non, mais c'est un univers qui m'a toujours plu, parce que c'est un univers que je trouvais vraiment pur, finalement. Les enfants, voilà, il y a des règles de jeu simples, mais à partir du moment où tu leur donnes la chose la plus précieuse qui soit, à savoir du temps, ils te renvoient une énergie incroyable, une force de vie. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Ouais, la beauté de leurs sentiments et de la simplicité des choses. Ouais.
Et donc tu disais qu'avant même d'avoir envisagé d'être père, t'as d'abord été beau-père, c'est ça? C'est-à-dire que t'avais pas du tout, toi, envisagé l'idée d'avoir des mômes un jour?
Si, j'avais envie, mais... Et le fait qu'elle ait déjà un enfant, ma compagne me gênait pas du tout, bien au contraire. Je trouvais ça joli, mignon, et on était déjà une famille, en fait. Mais c'est vrai que ça implique qu'on n'a pas eu de vie de jeu... De jeune couple, tu vois. On était tout de suite dans un mode
très concret.
Voilà, il y avait de l'école le matin. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, quand on a décidé assez vite d'avoir un enfant, et l'arrivée de l'enfant, ça change des choses dans ma tête, parce que celui-là, en effet, c'était le mien, et que j'étais le seul papa et le vrai papa. Mais l'organisation de vie, finalement, on se levait déjà le matin pour aller à l'école. C'est pas sur l'organisation. C'est vrai que un enfant, ça change incroyablement des choses. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me rappelle le nombre de fois où j'allais au cinéma par semaine. Je trouvais ça merveilleux d'aller au cinéma. Je faisais beaucoup de ciné tout seul. J'ai arrêté d'aller au cinéma le jour où le premier enfant est arrêté. Et depuis, le dernier film que j'ai dû voir, ça doit être E.T. ou quelque chose comme ça. Non, mais après, quand voilà, mon premier garçon est arrivé, ouais, en plus, je m'en suis pas mal occupé. Au début, j'étais pas du tout dans le. Ma carrière n'était pas à ce moment-là. À cet endroit-là où je suis maintenant, et j'avais beaucoup plus de temps pour moi, pour écrire, donc je l'ai consacré beaucoup au petit bonhomme.
C'était il y a combien de temps?
Il a 12 ans.
D'accord, ouais.
Et donc entre 0 et 1 an et demi, je suis beaucoup resté à la maison, j'ai vraiment des journées entières. Parfois on écrivait avec un pote qui venait, mais on avait le bébé à côté, on avait le petit, on allait faire les courses, le machin, donc il y avait ça. Et puis, parce qu'on n'a pas eu de place
en crèche
tout de suite, on en a trouvé à partir d'un peu plus tard. Et à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit je peux plus, j'ai arrêté, je vais craquer. Je suis plus que pour lui. Je peux pas faire ça. Je peux pas être homme au foyer.
Et parce que tu bossais de chez toi finalement. Et...
Ouais, je faisais quelques concerts de temps en temps le soir, mais. Il n'y avait pas d'histoire de tournée ou de choses comme ça. On était à l'école de la Fée Monsieur D à ce moment-là et on jouait principalement en région parisienne. Donc c'était vraiment très, très raisonnable, quoi. Et puis voilà, après, il y en a eu un deuxième qui est arrivé en 2009. Où là, ça commençait à s'accélérer. J'étais déjà dans un mode de tournée un peu différent. Il y avait beaucoup plus de dates. C'était plus rock. Et puis, on est passé de 2009 à 2010. On est passé au mode de l'AF. 2011, la tristitude. Et là,
ça a explosé.
C'est explosé. Mmh. Et ça a été d'autant plus dur que les deux premiers enfants, la grande et voilà, Baptiste au milieu, étaient beaucoup plus calmes. Et un peu par la force des choses, parce que Léa, c'était une fille très, très sage, voilà. Et elle a jamais fait de bêtises, je crois, de sa vie, vraiment. Et Baptiste.
Ça va peut-être venir, non? Donc elle a 15 ans maintenant, c'est ça?
Elle a 17.
Oh oui, oui.
Elle est en train de passer son bac. Oh. C'est incroyable. Ça fout un coup de. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et Baptiste, lui, il a un sous-petit souci moteur. Un petit handicap qui fait qu'il a marché tard, il a toujours pris son temps, donc il va bien, il est dans un niveau scolaire normal, mais il a du mal à se mouvoir ou à parler un petit peu. Donc c'est un enfant finalement assez calme et machin. Et t'es arrivé là-dessus une tornade, une furie, le dernier, qui est un gag et qui fait beaucoup rire tous nos amis, parce que là ça va mieux, on peut avoir vraiment, il a 8 ans maintenant, mais c'est un môme sursensible qu'on a cru être atteint d'hyperactivité médicale. Ça n'a pas été le cas, mais ça a toujours été un gag depuis qu'il était petit. Mais entre 0
Qu'est-ce
et...
Qu'est-ce que tu veux dire par gag?
Il ne marchait pas, il escaladait déjà des lits superposés. On l'a retrouvé, il a fait des conneries, mais je pourrais faire vraiment un livre juste sur ces conneries. Vraiment, c'est extraordinaire. Il a fait des choses, mais magiques.
Mais qui mettait aussi sa vie en danger, apparemment.
Ouais, il a réussi, je te dis, de passer d'un lit superposé à une étagère, tu sais, qui sont juste fixés par deux clous, mais invisibles, tu sais, même pas avec des équerres, juste des trucs comme ça. Et il était là, il a... Une fois, il a mangé le caca de son frère sous mes yeux. Il a fait que je lui lave les dents en hurlant parce que t'as ton fils qui a mangé l'excrément de son frère. Enfin, il y a une espèce de symbolique totalement scatophile qui était dégueulasse. Et Cathy est rentrée à la maison. Je gueulais. Et les enfants étaient tous horrifiés. Et il a réussi une fois à acheter un pot de yaourt à l'intérieur des toilettes au moment où la chasse d'eau était tirée, donc il a fallu rechercher le pot de yaourt. Je te donne que des exemples, mais c'est tous les jours. On ne pouvait pas, quand il était petit, on ne pouvait pas aller aux toilettes. On n'avait pas le temps d'aller faire pipi.
Sinon,
connerie. Il avait une force de détection de l'objet dangereux, mais qui touchait au génie. C'est-à-dire que il détectait. Il regardait une pièce, il scrutait des yeux un coup d'œil et il voyait l'objet dangereux, un vase ou alors une prise de courant ou alors toujours le truc qu'il fallait et c'était terrible. Et parfois on avait des tactiques, on a chamboulé notre manière de voir les choses. Par exemple, si on disait tiens là il est en train de déchirer un livre, bon il n'y a pas de danger direct, tu vois. Laissons-le, on sacrifie ce livre, ok, c'est un dictionnaire de grand-papy, mais on le sacrifie. Alors que s'il était en train de fouiller dans la poubelle, voilà, déjà, voilà, là c'est plus possible, tu vois, où il essayait de bouger les chaises parce qu'il avait plein d'astuces pour faire ses conneries, bouger les chaises pour essayer d'aller atteindre l'armoire au couteau fourchette. C'était extraordinaire, c'est non-stop. Et donc, c'était vrai pour tout le temps, et c'est arrivé à un moment où là moi j'étais beaucoup plus en tournée, donc pour
présent,
ma compagne, ben voilà, donc pour les parents beaux-parents, mais c'était et tu vois, mes parents voulaient plus les avoir tous les deux en même temps parce qu'ils pouvaient pas gérer Baptiste qu'il fallait aider pour certains trucs, et Noé qui faisait mais c'était incroyable, mais c'est je te dis, il faudra d'ailleurs, j'en ferai certainement un jour un petit résumé, mais il est très très fort aussi en phrases en phrase culte, tu sais, je ferai ça un jour, je les poserai toutes, mais je les ai gardées, je les ai écrites.
Est-ce que t'en as une petite pour nous, qui vient à l'esprit?
La dernière est très jolie, c'est très très romantique. Il a dit, papa, c'est quand la Saint-Valentin des mots pour qu'ils se marient ensemble. Bah, j'étais suffoqué de, c'était tellement romantique cette phrase, tellement jolie. Et qu'est-ce qu'il a sorti? Une vraie belle connerie. Qu'est-ce que j'aurais vu à toi? Papa, est-ce que ça existe les Japonais? Bah oui, au Japon. Mais non, papa, les chiens poneys. Ah <non. rire> Bon, mais celle-là, c'est pas la plus marquante. Mais il y en a. Il faudrait que je les ai marquées sur l'ordi. Je retrouve à ça à l'occasion.
Tu sais un peu d'où ça lui vient, ce. Parce que j'ai.
Oh, je crois que. Non, en fait, je crois que tous les enfants, là. Enfin, je parle pour les phrases. Hein. Les phrases, tous les enfants ont des super phrases.
Mais là, il a un côté un peu. J'aime me mettre en danger potentiellement. Et
ouais, alors.
Voire tenter de me tuer.
Non, c'est justement, je crois qu'il fait que des choses où il contrôle à peu près le. Où il contrôle à peu près. Et je te dis pas qu'il n'y a pas eu des cas où les bords de fenêtres ou voilà, des trucs comme ça où on a eu des vrais battements de cœur. Il a réussi un jour à faire sauter tous les plombs en mettant sa main dans un grille-pain, tu vois. Je veux dire.
Mais il est toujours là.
Il est toujours là et
il se calme un peu en grandissant ou
il est au taquet, c'est-à-dire que tu sens une sensibilité extrême sur les colères, sur les machins, il bouge tout le temps, et surtout c'est que depuis qu'il est petit, ce qui est rigolo, c'est qu'il compense le mouvement. C'est-à-dire que en voiture par exemple, il est assez calme, en train il est assez calme, en avion tout ça. Mais dès que par exemple tu rentres du boulot, t'es crevé et tu te poses sur un canapé, calme à la maison. OK, c'est parti. C'est le début de la fête. Et là, t'es mort. Ça crie, ça donne des coups, ça machin. Pas méchamment, mais il faut que ça bouge. Il compense vraiment le mouvement. Et s'il y a une fête où tout le monde danse ou machin, il va être plutôt impressionné, il va se mettre dans un coin et il va bouger. Alors que si il y a une place à prendre, je te dis, voilà, il a toujours compensé le.
Et vous l'avez mis à une activité, un truc, vous avez acheté une roue pour le faire courir.
On aurait dû.
Créer de l'électricité, tant qu'à faire.
Il aime bien faire du foot ou des trucs comme ça. Donc moi, je jouais avec lui, mais quand il s'agit de l'inscrire dans un club, c'était le faire du foot avec des gens qu'il ne connaît pas, donc il a refusé tout de suite.
Oui. Est-ce que tu veux. Tiens, tu vois, tu peux te. Tu sais, je te file des.
C'est ça, Voilà. Je suis en convalescence, alors j'ai besoin d'être bien installé, tu sais. Et. Et en tout cas, c'est assez fascinant. Mais c'est un môme qui est génial parce que, et je suis très fier de mes mômes parce que on a toujours une vie hyper sociable avec leur maman et que ils renvoient. Tu sais, dès que quelqu'un arrive, il y a un accueil. Le fait de dire bonjour, de sourire, de faire des bisous, de machin, ça me fait vraiment plaisir. C'est que ils marquent la fête, ils sautent dans les bras des gens qui arrivent et je trouve ça extraordinaire comme qualité.
Mais t'es un peu comme ça aussi, je pense. T'es très humain, toi. Je connais pas ta compagne, mais.
Ouais, non, mais si, elle adore le monde et il y a toujours des gens chez nous, des amis, des. Ça a toujours été ça, mais c'est vrai que les enfants, tu vois, moi je sais que ça me fout un peu les boules quand je suis avec des amis qui ont des enfants qui. Tu peux être là, pas là, ils marquent aucune différence, ils ne viennent pas te dire bonjour, ils ne viennent pas te parler, ou si parce qu'ils te parlent, c'est parce qu'ils ont besoin d'un truc, mais. Et j'ai un peu de mal avec ça, ouais. Et parce que j'ai toujours vécu aussi l'époque où j'étais animateur, beaucoup de fait de vie en communauté finalement, et des vacances qu'on passe avec. C'est rare qu'on soit juste nous. Il y a toujours des gens avec nous. Et j'ai besoin, dans une vie en communauté, d'avoir des petites règles. Et ne serait-ce que des règles de sympathie, de se dire voilà, je suis heureux que tu sois avec moi. Et bonjour, comment tu vas? Alors, et donc, les enfants, je pense qu'ils ont ça. Et je pense qu'ils auront aussi une vie sociale assez développée. Ouais. Je leur souhaite, en tout cas.
T'as fait très peu de blagues depuis le début de cette interview. T'en as placé quelques-unes qui m'ont fait rire. Mais si vous connaissez pas Oldelaf est l'un des rares artistes en fait en France à faire à la fois. Tu racontes d'ailleurs sur scène, en tout cas dans un de tes anciens spectacles, tu racontais que tu savais pas trop quoi faire, chanteur ou faire des blagues, et qu'un jour tu t'es dit tiens en fait on peut faire les deux.
Ouais, c'est surtout en fait moi de si tu veux de à la base je viens vraiment de la musique. J'ai étudié la musique, j'ai fait des heures et des heures, j'ai travaillé toute mon enfance, mon adolescence a été passée devant un piano puis une guitare et j'ai joué. Et c'est au moment où je me suis mis à écrire mes propres chansons. D'abord, j'ai écrit des chansons traditionnelles, on va dire, qui étaient des chansons destinées à être jolies et voilà, chanter. Et puis un jour, en faisant des chansons humoristiques, je me suis rendu compte de l'effet que ça faisait. Non seulement je voyais à quel point les gens réagissaient, et puis c'était immédiat. Tu vois tout de suite le succès qu'elles ont. Et puis surtout, je me disais que vraisemblablement, j'avais un peu de talent pour les chanter, parce que ça réagissait et les gens m'en parlaient tout de suite. Donc j'avais en soirée, déjà l'adolescence était confortable, j'avais cette place de musicien et en plus quand j'ai trouvé cette place de musicien humoristique, tu voyais un petit événement à chaque fois que ça arrivait. C'est un truc que faisaient pas les autres. Il y avait surtout à l'adolescence.
Démarré dès l'adolescence pour toi de faire des blagues.
Ah bah ouais, moi j'ai eu, si tu veux, ma guitare, je faisais du piano déjà depuis 2 ans, vraiment autodidacte, et j'étais un très bon niveau de piano, parce que je faisais que ça, je jouais piano tout le temps, et j'étais pianiste de bar à 14 ans, tu vois.
Ah ouais?
Ah ouais, et donc quasiment la même année où je suis devenu pianiste de bar, j'ai eu pour mon anniversaire une guitare, et là j'ai fait une, au lieu de faire 2 heures de piano tous les soirs, je faisais 1 heure de piano, 1 heure de guitare, et chaque instrument aidait l'autre, si tu veux. Je comprenais des choses et j'ai progressé plus vite, et puis après le bac j'ai fait musicologie, mais en tout cas ces âges où je découvrais les guitares, je me suis mis à écrire vraiment les chansons, les groupes qui commençaient à arriver, et c'est là où ma distinction s'est faite beaucoup sur les chansons humoristiques. Mais j'ai pas choisi consciemment, j'ai jamais étudié l'humour, tu vois, c'est venu comme ça. J'ai progressé, je pense, dans ma manière d'écrire l'humour, j'ai grandi évidemment. Et surtout, j'ai essayé d'en faire un vrai art, parce que la différence avec plusieurs autres, c'est que je pense que c'est un art à part entière, que c'est pas une sous-race de chansons, ou c'est pas une sous-race de forme d'humour. Pour moi, c'est un domaine qui se travaille, qui s'étudie avec beaucoup de gens pensent que faire de la chanson humoristique, c'est faire tourner des serviettes ou quand il pète, il trouve son slip, et ça me fait de la peine parce que il y a toute une gamme de chansons humoristiques. J'en ai exploré plusieurs, j'ai pas fini, je continue.
Oui,
et surtout
des chansons mélancoliques qui peuvent être
aujourd'hui, voilà,
aussi,
oui, mais... c'est ça. C'est aujourd'hui je suis hyper fier en tout cas des spectacles et des albums, parce que j'ai l'impression qu'ils me ressemblent, au sens où il y a parfois où on a envie de rire, parfois on n'a pas du tout envie de rire. Et pas forcément parce que le sujet est drôle ou pas drôle. Hein. Vraiment, c'est les deux peuvent se mélanger. Je suis en tout cas, j'ai l'impression que ça me ressemble. Et ça, c'est hyper important. Je suis hyper zen, apaisé par rapport à ce que je présente. J'ai l'impression que c'est des vraies tranches de vie crédibles.
Comment t'as la sensation d'avoir offert ça à tes enfants, cet aspect alors, est-ce qu'ils jouent de la musique?
Alors, comme Calogero, ils jouent de la musique et la différence c'est qu'ils respirent pas musique, ils ne font pas l'amour en musique pour l'instant et ils ne jouent pas de basse électrique. Mais quelle chanson catastrophique. Qu'est-ce que les enfants, en fait, je pense que les trois ont un vrai sens de la musique, mais je pense qu'ils ne sont pas courageux pour l'instant. La musique ne les transporte pas. Mais je pense qu'ils ont le don de la musique. Baptiste faisait à un an et demi un truc qui m'impressionnait vraiment, en tant que moi, ex-prof de musique ou musicien moi-même. C'est que sur la chanson Nathalie, mon amour des JMJ, il ne parlait pas, tu vois. Il était un an et demi, il ne parlait pas du tout. Et Nathalie, c'était une chanson qui marchait bien, donc il avait entendu, il avait vu un peu en concert, mais un an et demi, c'est pas grand, tu vois, pour un bébé. Et il faisait la chose suivante, c'est que je chantais, tu étais venu encore au cœur du mois d'août. Et lui, tapait dans ses mains, tac, tac. Il marquait le silence. Il habillait le silence et non pas la musique. Et je trouvais ça, mais le sens de la musique extraordinaire, quoi. C'est, à un an et demi, et donc voilà, il a toujours eu le sens, il a fait la batterie, le prof était hyper impressionné, alors qu'il a ses problèmes un petit peu moteurs, il fait du piano maintenant, moi je pense qu'il a vraiment un don, mais il cherche pas à le cultiver plus que ça. Et
t'as démarré à quel âge toi déjà ?
Moi j'avais fait du conservatoire assez tôt, mais je détestais, ça m'a juste délié les doigts au piano. J'ai rien appris. C'est le jour où j'ai arrêté le conservatoire, j'ai commencé la musique pour moi. Vraiment. C'est triste à dire,
comme
mais c'est vraiment.
Comme beaucoup de gens, je pense, hein, vraiment.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça correspond à la manière d'apprendre de certaines personnes qui ont besoin de cette rigidité d'enseignement, cette forme-là. Moi, c'était pas du tout ce qu'il me fallait. Le solfège, alors que c'était une allergie totale. Tu vois, quand j'étais au conservatoire, c'est devenu ce qui m'intéresse le plus finalement. Je trouve que je peux lire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Lire des bouquins de solfège, et c'est là-dessus où je me suis aussi démarqué par rapport à d'autres gens, puisque quand j'ai fait musicologie, tu vois, après, on en bouffait pas mal, et c'est en harmonie où j'étais vraiment en harmonie et en audition, quoi. C'est que j'ai eu comme j'ai beaucoup bossé en autodidacte, j'entendais
t'es
vraiment.
Oreille, quoi.
Ben, c'est marrant parce qu'on a tous des oreilles différentes, mais c'est vrai que moi, c'est au niveau des accords. Toi, je peux entendre une chanson que je connais pas à la radio, je te la rejoue direct, et c'est pratique quand tu fais du piano bar, des machins. Et puis dans tout mon métier maintenant, ça a été très très utile. Et à la fac, du coup, ça m'a donné de l'avance vraiment sur les autres. Mais c'est marrant parce que d'autres avaient une oreille horizontale, on va dire. C'est-à-dire que tu leur jouais une mélodie, ils pouvaient tout reproduire hyper rapide. Ouais. Il a joué tout de suite, alors qu'ils étaient incapables de dire les harmonies. Et moi, c'était le contraire. Je pouvais entendre toutes les harmonies, les voix internes, des trucs à quatre voix, et je pouvais être avec des renversements et des difficultés, mais ça me passionnait vraiment. Voilà. Et donc ça, est-ce qu'ils l'auront un jour? Est-ce qu'ils auront ce même goût? Et je leur propose et je les incite à en faire, parce que je sens en plus qu'ils ont ce talent. Et surtout, moi, par exemple, pour Baptiste, je sais à quel point la musique a été une psychanalyse totale. C'est-à-dire que quand t'es adolescent, moi, au moment où les adolescents se prenaient la tête, sont tristes, on passe par des moments très sombres, moi, tout ça, je pouvais le jouer, le cracher sur mon piano, et même après l'écrire sur des mots et les chanter ensemble. Et en effet, ça fait des chansons qui aujourd'hui, on peut dire que je pourrais pas rechanter, c'est pas du tout moi aujourd'hui, mais quelle chance. Et non seulement tu peux le chanter, puis tu peux le faire écouter à d'autres, partager avec d'autres. Donc, mais en termes de psychanalyse, c'est merveilleux. T'es ton autopsie autopsie. Pas besoin de se faire autopsier, non. Mais tu t'autopsychanalyses, et puis en plus, tu te crées une place dans un groupe. Donc socialement, c'est incroyable. Et donc moi, ça passait par des chansons tristes et donc des chansons gays aussi. Mais j'avais la chance que, à part en amour, je me sentais complètement rejeté, seul, et j'étais très triste. Autant j'avais la chance d'avoir toujours une vie familiale assez stable, et j'ai pas eu de blessures, de séparation, à vivre de parents. Et puis voilà, donc. Mais en tout cas, je souhaite que mes enfants connaissent ce bonheur-là, mais je ne leur imposerai pas, évidemment.
Oui. Que moi, j'allais dire, t'es pas un peu frustré, justement, qu'ils n'attrapent pas cette envie-là?
Après, ils sont encore jeunes.
Ils sont petits.
Je me dis que...
Tous
et moi, tu vois, ouais, oui. Moi, le choc, il arrivait à 13 ans, quoi. Vraiment.
Okay.
Fin de la quatrième, j'arrête le conservatoire, et je te dis, là, l'été même où j'arrête le conservatoire, je me mets à jouer, et j'écris mes premiers morceaux, tu vois. Et je le savais, je le sentais, je disais à mon père, le jour, je pense que quand j'aurai du temps, j'aimerais bien faire vraiment du piano. Mais en fait, quand on était en cours au conservatoire, t'as des devoirs de piano, faut faire, tu fais ce qu'on te demande de faire, t'as pas vraiment le temps pour, en tout cas, moi, ça me saoulait. Après, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire des trucs. Mm-hmm. La musique a été mon premier confident à partir de 13-14 ans. Donc, t'es exactement quand tu rentres dans l'adolescence pure et dure.
Ça a été quoi le déclic pour toi? À part le fait d'arrêter le conservatoire, il y a eu autre chose, tu penses, ou...
Non.
C'est juste cette liberté-là retrouvée.
Je me suis passé. Enfin, la découverte, et c'est marrant parce que j'ai rejoué tout ce qui, mon oreille, je te dis, qui m'aidait à rejouer tout ce que j'entendais. Et donc c'est les années top 50. C'était je rejouais les dessins animés et au travers de ces chansons-là, du coup, c'est ça qui faisait aussi. En bœuf de soirée, je jouais les morceaux que les gens avaient envie d'entendre, soit des trucs actuels du moment, soit des clins d'œil dessins animés. Ça faisait partir tout le monde, et ça fait toujours partir tout le monde. C'est vrai que ça a toujours été mon...
Est-ce que t'es passé à la guitare pour avoir un côté plus social, justement, qui est...
Alors, la guitare, c'était l'envie que j'avais... Initiale.
D'accord.
Moi, je suis arrivé au conservatoire à 7 ans en disant, je fais la guitare, le mec va regarder mes ongles, vous mangez les ongles, vous ne ferez jamais de guitare. Voilà, ça a été sa conclusion. Alors, j'ai fait du piano. À un moment, je me suis mis à chanter en tant que joueur du piano. Ma mère m'a dit, attention, je joue du piano, mais tu ne seras jamais chanteur.
Merci, maman.
Et donc, comme je me suis mis à. J'ai arrêté le conservatoire. L'année d'après, j'ai joué, et j'avais progressé énormément, finalement. Et je suis retourné voir ma prof de piano en disant, ouais, voilà. En fait, je suis passionné, j'en fais beaucoup, et je me dis, pourquoi pas même en faire ma profession, toi. Donc là, j'étais en troisième, j'avais 13-14, ouais, et elle me dit, bah non, tu ne seras jamais musicien, tu as arrêté, c'est trop tard. C'est, voilà. Et donc, c'est assez marrant de voir les avis tranchés qu'ont les gens. Voilà. Donc, après, ma mère, je te dis, cette phrase dont je me souviens, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont, mes parents, ils m'ont laissé non seulement jouer, et autant quand tu joues des guitares dans ta chambre, tu fais chier personne, tu peux vraiment, tu fais pas de bruit. En revanche, quand tu joues du piano, que tu chantes dans la salle, salon, en fait, c'est un don de qui est hyper important, quoi. Ils m'ont laissé faire ça énormément, et donc ils se sont mangés toutes les gammes, les travaux, les essais, les fausses notes, Et ils ont laissé sans jamais broncher.
Il n'y avait pas les pianos électriques à l'époque
Non. C'est arrivé en même temps, mais on en avait un vrai déjà. Donc, puis... Mais c'est vrai que...
Ma fille a ça, elle a un piano électrique, c'est trop bien. Elle joue du piano, elle branche le casque.
C'est ça.
On l'entend pas. C'est trop cool.
Bah oui, non, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est... puis même dans les appartements, c'est moins cher, ça prend moins de place. Et c'est... En vrai, c'est assez pratique. Puis les synthèses de piano, les sons sont bons, donc faut en profiter. Mais en tout cas...
Pas de frustration de ton côté, en tout cas, que tes enfants ne soient pas encore tombés dedans. Tu disais, ça va bien, tu laisses le temps.
Vraiment, je leur souhaite de tout mon cœur de connaître le même bonheur. Et je ne parle pas d'être professionnel, mais juste le bonheur que ça m'a apporté. Toutes les blessures que j'ai pu vivre et qui ont été guéries, ou en tout cas apaisées, adoucies par la musique, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est vraiment une chance énorme. Et puis après, moi, je pense que ma place était sur scène d'une manière ou d'une autre. Donc, il fallait une raison d'être sur scène. Donc, les chansons, ça m'est paru évident. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu, on va dire, une voix qui fait que des petits ont dit « Oh là là, toi, t'es fait pour ça. » Non, non, je me suis battu, j'ai travaillé comme un porc sur scène. C'est pas du tout seul, sauf à partir du moment où il y a eu vraiment cette histoire d'humour qui est venue, et tout de suite je voyais la réaction où il se passait quelque chose. Donc je suis très content d'avoir trouvé ma place. Je l'ai pas calculé, je l'ai pas choisi, mais j'ai accepté, tu vois, ce truc, et donc développé, travaillé maintenant, et je suis un des fers de lance, je pense, en chanson humoristique. Mais c'est vrai que c'est pas arrivé comme ça, d'un claquement de doigts. Ouais.
Et ton petit, tu le mets pas à la batterie, par exemple, histoire de le...
Eh ben écoute, on lui propose plein de trucs, il refuse vraiment, il est vraiment revêche. Il ne veut pas aller vers les choses qu'il connaît pas. Il a peur de, une énorme peur de l'inconnu en fait. Et donc là, il fait un peu de piano, ça le défoule pas. Il va essayer de jouer les morceaux à fond avant de les avoir travaillés, donc ça bloque un peu. Là, sa prof a beaucoup de patience. Évidemment, je paye une prof parce que je sais que si c'est moi qui le faisais, ça se passerait pas bien du tout.
Ah, tu t'y arriverais pas ?
Non. J'ai essayé avec tous les membres de la famille, même ma compagne a essayé à un moment, mais c'est pas possible en fait. Mais surtout, c'est que moi, quand j'étais prof particulier, je défendais la méthode de dire. Un prof, c'est juste là, il est là pour recadrer le travail d'un élève, mais le vrai travail, c'est ce qu'on fait chacun pour soi. Il y a des gens qui pensent peut-être que c'est en prenant les cours, tu vas apprendre en faisant une demi-heure avec un prof par semaine. Non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est les heures et les heures que tu vas passer, toi, sur l'instrument, à comprendre et à avancer. Mais un prof, il peut dire attention, tu mets mal ta main, attention, tu te plantes, c'est pas cette note-là ou machin. Mais le travail, il faut que les gens soient hyper motivés par ça. Donc là, pour l'instant, chez moi, je lis un peu de paresse de la part de tout le monde, d'oubli. Ou, tu vois, ils sont pas. Moi, le piano, c'était au-dessus de tout. C'est que je me relevais la nuit pour en faire ou pour.
Réveiller tout le monde dans la baraque.
Ouais, alors piano, peut-être pas. C'est que mais dès que j'avais un moment de libre, j'étais dessus. Et c'était une fois en soi, quand on partait en vacances et que je n'en avais pas. C'était un manque total, et je rentrais, je jouais mais toute une journée, je faisais que ça, quoi, tu vois, et voilà. Donc, il n'y a pas encore cette envie, ce besoin de leur part. Et peut-être que ça viendra jamais, d'ailleurs.
T'as sorti, donc, juste avant Goliath, un album pour enfants.
Oui.
Qui s'appelait Joyeux anniversaire.
Happy Birthday. Happy Birthday.
ça te vient d'où, en fait, l'idée d'aller vers la chanson pour enfants?
En fait, j'avais découvert ça en 2008, où j'avais sorti mon premier album de chansons pour enfants avec Bête et Méchant, qui avait été une assez belle réussite, parce que j'avais été récompensé par l'Académie Charles Cros, donc j'étais très fier de ça.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
L'Académie Charles Cros, c'est, on va dire, c'est un peu une forme de collège, d'experts de la chanson, de passionnés qui remettent des prix vraiment quant à la facture d'albums, des chansons. Donc c'est pas les victoires de la musique, ça rapporte pas grand chose si ce n'est une vraie reconnaissance du milieu et un vrai label
de qualité.
Ouais, exactement. Ouais. Et j'étais très fier de ça. Et puis, ce qui était intéressant dans sa démarche, c'est que c'est arrivé à un moment où moi, ça a été mon premier... c'est la première fois que je refaisais de la chanson mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des chansons sérieuses et des chansons marrantes dessus. C'était un conte musical, le premier, donc Bête et Méchant, qui avait été une commande des éditions Milan, qui voulait proposer des artistes de chansons françaises de notoriété intermédiaire, quoi. Donc pas des débutants, des pros, mais qui n'étaient pas non plus des têtes d'affiche, de faire ça. Et moi, c'est arrivé un moment où le deuxième Monsieur D venait nous annoncer qu'il arrêtait. J'ai écrit donc le conte musical, tout l'album, écrit, enregistré en 2 mois.
Ah oui,
rapide. Non, oui, trois mois.
Enfin, rapide quand même.
Ouais, totalement, voilà. Et c'est ça, je m'y mets. Et je le rends en mi-juillet, ouais. Donc c'est maintenant, c'est 2 mois, en fait. Et ça a été, j'ai craché tout. Et je pense que c'était une vraie réussite. Il y a eu des petites maladresses d'enregistrement. Ça est là, tu vois, c'est pas parfait. Mais l'énergie du disque, est, je pense vraiment être une bonne énergie. Donc... on l'a laissé un moment, il est sorti, mais on l'a tourné, on s'est mis à le tourner en 2011, tu vois.
Ah oui, ok.
Donc vraiment des années après, parce que j'avais pas le temps à ce moment-là de le faire, j'avais pas forcément l'envie, et puis il y a eu beaucoup de demandes, parce que quand tu fais la chanson pour enfants, ceux qui s'y sont essayés à côté, tu vois le succès d'Aldebert, et succès ô combien mérité, mais c'est pas le seul, moi, dans les gens qui étaient dans la même collection que moi, et on peut citer des gens comme Pascal Parizeau, il y avait David Cyr, tu vois, qui venait de la chanson classique pour adultes, ouais. Et qui ont essayé ça et qui en ont fait leur spécialité. Aujourd'hui, Aldebert, c'est un empereur, tu vois, il fait tourner des zéniths. Et c'est magnifique. Pascal Parizeau, pareil. Et donc, c'est lui qui a réalisé d'ailleurs mon dernier album, Pascal Parizeau. Happy Birthday. Avec sa patte, son humour, sa touche. Et moi, j'adore. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui se sont spécialisés. Moi, je ne voulais pas.
T'enfermer là-dedans, entre guillemets, c'est
non,
ça ?
Non, exactement, ouais. Ça me faisait peur. Parce que j'aime le côté. J'aime être un petit peu borderline, tu vois. Et j'aime pouvoir sortir des conneries. Et si je fais un concert pour enfants où mon but c'est de faire marrer que les parents des enfants, je suis pas à ma place, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'essaie de faire des albums pour la famille où chacun y trouve son compte. Et il y a vraiment plusieurs lectures, et les enfants comprendront
comme
les des
Pixar,
vannes.
Ou les Pixar,
oui.
Ou les Astérix.
Ouais,
ou
c'est ça. Je pense que les enfants comprendront certaines références plus tard, et c'est tant mieux. Hein, comme qu'est-ce que t'es content quand tu redécouvres un gag d'Astérix des années plus tard.
Ouais, je suis d'accord.
Oh, je l'avais pas vu. C'est vrai pour certaines chansons de Renaud aussi, tu sais, t'as des vannes qui viennent longtemps après. Et voilà, donc j'essaie de construire un album comme ça pour la famille, c'était une demande, mais là où ils sont forts les enfants, et c'est vrai pour les miens comme pour les autres, c'est-à-dire que le but de la collection, c'était vraiment de dépoussiérer la chanson pour enfants, puisque de nous d'amener des méthodes, des discours et des manières de faire des chansons qui venaient plutôt de la chanson pour adultes, pour que ça plaise à tout le monde. Mais un enfant, en fait, comme il est complètement obsédé et totalement monomaniaque, ils écoutent les albums 500 fois de suite. Et donc, sur un trajet, quand t'as un album qui peut être un peu bien ou quoi, etc., et que les parents vont se marrer à les deux fois de suite, mais au bout de la 50e fois, tu deviens fou, quoi. Et ça sera pareil sur du Pink Floyd ou sur du Michael Jackson.
Ouais.
C'est que c'est pas possible d'écouter un album 50 fois de suite, mais c'est vrai que les enfants sont totalement monomaniaques et pendant une période de leur vie, ils n'écoutent que voix. Et encore, quand c'est un album, déjà, ça fait une variante, mais quand c'est qu'une chanson, et je sais que dans ces albums-là, il y avait certaines chansons qui faisaient un succès, les parents me disaient, mais je te déteste, je te déteste. Et moi-même, je me suis détesté, parce que mes enfants me demandaient tout le temps la même chanson dessus. Je disais, ah non, je l'ai sorti l'album. Mais si, regarde, il est là, mais non. Et on se retrouvait avec, ah oui, il est là, ouais. Et donc, j'étais obligé de mentir pour pas écouter mes propres chansons. Toi, c'est que...
Tu les as testées sur tes enfants, tes chansons d'enfants ?
Ou alors, pas au sens...
Tu sais, c'est Iggy Pop qui disait que tu mets une chanson à un groupe d'enfants. Enfin, je pense même qu'il testait ces chansons sur des mômes pour voir si en fait ça marchait, parce qu'il partait du principe que les enfants sont... De toute façon, ils n'ont aucune convention sociale, ils s'en foutent. Dès que ça marche bien, en fait, ils vont danser. Et à chaque fois que les mômes dansaient, ils disaient « Ok, alors celle-là, je la garde. » J'avais entendu cette anecdote. Ouais.
Non, je sais que Jean-Luc Lahaye fait ça aussi.
Jean-Luc, si tu nous écoutes.
Oui, voilà. Mais Mais voilà, il a dû arrêter là. C'est pour ça qu'il sort plus d'albums là, c'est qu'on lui confie plus de classe. Donc, reprends ton souffle, oui.
Ah non.
Non, non, mais en tout cas, j'ai pas testé sur les enfants avant de sortir l'album. Je voulais un truc qui me plaise.
À toi en tant qu'adulte, quoi.
Ouais, c'est ça. Et à partir du moment, ce que je crois assez, c'est qu'à partir du moment où tu prends pas les enfants pour des cons, je voulais vraiment faire un album de chansons qui disent des choses et des chansons qui bourrinent. Par exemple, il y a dessus la chanson qui marchait le mieux, c'est la chanson, c'est du, on va dire, du hard fusion pour enfants. Voilà. Donc. Alors, le son est pas terrifiant, mais ça s'appelle Shy Karateka et on chante en gueulant avec mon pote Olivier Dubois qui est dessus, qui est accessoirement celui avec lequel j'ai écrit La Tristitude, La Peine de Mort, tu vois, bon. Et là, sur le dernier album, Le Cœur Fenouille, et donc, tu vois, on s'est fait plaisir, et sur l'album, on hurle comme des gorilles, hey, Shy Karateka! Et les enfants, mais c'est un succès. Tous les profs qui l'ont fait passer, ils sont hallucinés parce que ça cartonne, c'est-à-dire que les enfants, ok, on a le droit à écouter des chansons comme les grands. Et la chanson est marrante, tu vois, il n'y a pas de message derrière spécifiquement, si ce n'est que, bon, bah, les fameux Shakataya qui va être hyper agressif s'en prennent tout le temps plein dans la tronche. Et voilà, on
en
va
même
dire
temps,
qu'ils.
Ils sont nuls, les chats, ça leur apprendra.
Voilà, exactement.
En relou.
Mais donc, ce succès-là, je pense qu'il est dû au fait, voilà, ça qu'on. De pas prendre les enfants pour des débiles chanter pom 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 je suis la pomme, ça c'est voilà, je ça m'intéresse pas et on m'a proposé et je pourrais en faire des trucs comme ça, mais c'est pas ouais, c'est, j'aime les trucs qui picotent un peu avec les enfants, se disent, qu'est-ce qu'il dit.
Mais en fait, moi, c'était une grosse bataille quand mes mômes étaient plus petites, et encore maintenant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, elles veulent à tout prix nous imposer les Kids United, alors que moi, qui chante Michel Sardou, n'est-ce pas ?
Alors, à quel Sardou il chante ?
Bah, tu sais, ils ont fait un album complet sur. Donc, par exemple, elles ont découvert que les lacs du Connemara, c'était.
Ah, ils font les lacs du Connemara, ça, j'ai pas entendu la version.
Ouais, c'était compliqué. Et donc, c'était une vraie bagarre pour moi de pas passer par, tu sais, Henri Dess.
Ouais.
C'est vrai qu'à l'époque, en plus, je te connaissais pas au tout début de ta carrière et je savais pas que t'avais sorti cet album, par exemple. Mais donc, moi, je leur imposais mes chansons. C'est-à-dire que c'était je vais vous faire aimer mes propres trucs à moi. Donc, ouais. Ce qui fait qu'après, elles ont fini par écouter La Tristitude. Alors, j'ai eu droit en boucle pendant.
Oui, c'est ça.
J'ai fait partie de. Tu sais, La Tristitude nous a accompagnés pendant tout l'été sur 50. Non, 1000 fois, vraiment. Je sais pas combien, tout le temps.
Je suis content d'avoir passé des vacances avec vous.
On connaît par cœur. Tout le monde connaît par cœur.
C'est cool. Bon, après, tu vois, c'est pareil, c'est une chanson qui picote. Moi, ça me fait marrer, tu vois, parce que La Peine de Mort, qui est, tu vois, dont le sujet pique encore plus. Et nos enfants, Al et moi, on faisait le festival d'Avignon et ils étaient dans les rues, tu vois, qui sont blindés à craquer. Et les enfants chantaient en adaptant la version pour les gens qui marchent pas droit dans la rue, La Peine de Mort. Et donc, il y a nos enfants qui hurlaient La Peine de Mort pour tout le monde. Et donc, ça nous mettait un malaise terrible. Mais les enfants, ouais, s'approprient le truc. Et ce qui me faisait plaisir, et ce qui nous faisait plaisir à Al et moi, c'est qu'ils avaient compris la règle d'écriture de la chanson. Et c'était pas du tout à côté de la plaque. Ils avaient leur vanne à eux, mais c'était la bonne règle de la chanson. Ils réclamaient la peine de mort pour plein de gens. Ça fait,
donc l'idée de la chanson, si vous connaissez pas, mais je vais mettre tous les liens pour pouvoir découvrir Hold de Laf en long, en large et en travers. Mais c'est donc pour tous les gens qui te gonflent, en fait. En gros, c'est
surtout,
la peine de mort.
Ça répondait. Voilà. Enfin, c'est pour répondre aussi à cette phrase des gens qui, tu sais, qui disent êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? Ah non, je suis contre, sauf dans certains cas. Et ça, enfin voilà, c'est merveilleux cette phrase, tu vois. Et dernier à l'avoir dit à la télé, c'est Michel Sardou qui est. Quand il est.
Michel Sardou,
s'il avait la chanson Je suis pour, tu sais, où il s'engageait pour la peine de mort, au moment où. Je vais écouter Je suis pour, au moment de l'affaire.
Oh merde.
De Patrick Henry, justement.
Ah ouais?
Ouais, et quand. L'avocat. Le Mitterrand, celui qui a fait.
Badinter,
voilà, oui. Merci. Et. Quand Sardou avait fait
une chanson, voilà, pro peine de mort.
Et donc là, il avait fait une interview il y a pas très longtemps où il revenait un petit peu en arrière. Non, attendez, non, ouais, donc j'étais jeune, c'était parce que machin, je réagissais, c'était faut voir la société pas la même, etc. Et surtout, moi, je suis contre la peine de mort, sauf dans certains cas. Voilà. Et c'était génial. Ouais. Bon, et donc, en tout cas, là, je me disais que les certains cas soient que les gens, en effet, relous, qui nous gonflent les petits trucs interdits. Donc, pour les gens qui font, pour les garçons qui font pipi sur la cuvette, la peine de mort. Pour les filles qui veulent pas nettoyer juste après, la peine de mort.
Voilà.
C'était ça.
En passant, un petit truc sexiste.
Oui, bon, en tout cas, voilà, il faut pas s'en priver.
C'est ce que tu n'es pas du tout, d'ailleurs, sexiste. Comment tu les éduques, alors, tes petits mecs? Dans le respect des filles, par exemple, notamment.
Bah, tu sais, on est sous
Parce
le...
Tu sais que s'il y a... Je sais pas si t'as vu, mais il y a 12% des femmes qui sont violées, agressées sexuellement au cours de leur vie. C'est un truc de fou, vraiment. Le truc qui est compliqué, je pense, aujourd'hui pour les mecs, c'est de se rendre compte que s'il y a autant de femmes qui se sont fait agresser, ça veut dire qu'il y a autant de mecs qui sont des agresseurs potentiels. Et je pense que l'une des clés, c'est aussi d'expliquer à nos enfants, si tu veux. Donc moi, j'ai des filles, donc je leur explique comment faire pour pas dire oui à chaque fois, de leur expliquer le consentement, etc. Et je pense qu'au niveau des mecs, enfin en tout cas des parents de garçons, il y a aussi ce truc de venir expliquer le respect de l'autre, en fait, tout simplement. Tu fais comment?
Bah, t'as des... Moi, j'aime bien les emmener dans la rue et je leur apprends à siffler au passage des filles. Déjà, la technique de sifflement est importante. Et puis ensuite, de bien choisir
oreille.
Les modèles, des petites phrases qui font plaisir. Eh, hey, mademoiselle. Et non, je te dirais, en fait, là, ils sont encore quand même assez jeunes. Et je pense que naturellement, bon, moi, j'ai jamais été là-dessus, je vais pas. Ni interpeller quelqu'un que je connais pas, ni de toute façon, à la maison, au niveau de la répartition des tâches, c'est clairement, il y a pas de.
Oui, c'est
moi qui fais la cuisine quand je suis là, sauf quand j'ai le bras en écharpe, mais il y a pas de. Je me fais pas servir, tu vois, à mon grand regret, hein, j'ai jamais réussi à installer ça à la maison, je trouve ça dramatique, je suis malheureusement tombé une génération trop tard, voilà, j'aurais bien voulu être l'homme.
Ton père, il se faisait servir?
En fait, je crois que, mon père, maman, fait tout, et ça ne joue pas, c'est pareil chez mes beaux-parents, hein, tu vois, ça choque pas, si ce n'est qu'on voit le passage des... Le passage des générations, c'est qu'en effet c'est pas comme ça chez nous et ça m'a jamais choqué parce que j'ai vu mon père travailler comme un damné, il était prof de maths, je l'ai vu passer des week-ends, des vacances complètes à travailler, corriger des copies, préparer des machins, il a jamais arrêté et quand il avait du temps libre, il le passait à bricoler et faire tout pour que la maison aille mieux, tu vois. Donc pour moi, c'est il réparait la voiture, il repeignait, j'ai jamais vu mon père assis à regarder la télé autrement que le soir pour se poser, quoi. Donc tu vois, c'est ça pour moi qui compte, et quand je te dis l'idée, c'est d'être complémentaire. C'est-à-dire que d'abord il y a aucune honte à faire le ménage plus que de repeindre un truc, et ma mère avait aucune envie de faire ce que faisait mon père, et mon père avait pas spécialement envie de faire ce que faisait ma mère. Ma mère cuisinait très bien, elle aimait ça, elle aime ça, elle veut pas qu'on vienne dans sa cuisine la saouler, non c'est mon truc. Donc on est parti comme ça. Maintenant, tu vois, moi j'aime faire la cuisine, et ma compagne aime bien que je la fasse, je pense savoir échanger, il faut voir ce qu'on fait. Il y a de plus en plus de nanettes, en effet, par contre, qui se permettent de dire j'aime pas cuisiner, j'ai pas envie de cuisiner, c'est pas mon rôle, et en effet, c'est pas le leur spécifiquement. Elles ont un boulot à gérer, elles rentrent crevées du boulot, et voilà. Maintenant, je pense qu'on a des réflexes plus de naturellement. Je pense qu'il y a plus de nanettes qui sont choquées quand elles voient une maison en bordel qu'un homme, et naturellement elles vont plus avoir tendance à le faire et en râlant peut-être, en disant non, tu pourrais ranger machin, mais un mec ne verra même pas peut-être le bordel qui est présent. Je dis bien peut-être, hein, c'est une théorie peut-être très fumeuse, donc c'est juste après des histoires.
Je pense que c'est
de...
des habitudes d'éducation aussi, c'est-à-dire que quand on t'a habitué à...
Oui, peut-être.
Quand t'es une fille, on t'habitue plutôt à ranger, tu vois.
Cela dit, bon, regarde les garçons.
Il y a des garçons très, très méticuleux aussi.
Oui, hein. Oui, tout à fait, ouais. Bah oui, mais qui aiment d'autres garçons.
Olivier, s'il te plaît.
Ah mais si, c'est super, je trouve. Si on peut pas avoir de blagues. et sexiste et homophobe, bah moi j'arrête tes émissions.
Tu t'en vas, tu viens plus jamais.
Et c'est ça. Non, évidemment, c'est une blague. Mais...
Merci beaucoup, Olivier. C'était trop cool, Hall de Laf.
Eh ben merci.
Un grand, grand merci d'avoir. En plus, c'était à l'arrache, hein, je l'explique là comme ça, mais t'étais pas du tout au courant de ce qu'on venait raconter.
Non, mais tu sais, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie depuis hier.
Depuis hier, effectivement.
Depuis hier, il m'arrive beaucoup de trucs à l'arrache. Ouais.
En tout cas, un grand merci pour ton honnêteté et pour cette humanité que tu. Que tu dégages là, on sent vraiment beaucoup d'amour vis-à-vis de tes enfants, c'est trop bien.
Ben, je l'espère.
Je vais mettre plein de liens, vous pourrez découvrir si vous connaissez pas Hall de Laf. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert Ben Mazuet à travers le premier podcast, donc j'espère que vous pourrez découvrir Hall de Laf, c'est vraiment trop chouette ce qu'il fait. Et puis,
merci pour ces mots, Fabrice.
Avec grand plaisir, accompagné pendant des étés.
C'est ça.
Et puis là, je vais avoir droit aussi cet été, je le sens.
Bon, cool, bah oui, il y a avec deux disques qui sont arrivés cette année.
Exactement. Un grand merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Salut.
Salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas, vous m'écrivez sur cet email histoire-de-daron@gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Ne vous impatientez pas si vous ne recevez pas de réponse tout de suite. Je reçois beaucoup de mails et je fais en sorte de traiter les priorités dans l'ordre. Enfin, je vous rappelle que notre rendez-vous, c'est le 1er et le 3e lundi de chaque mois. Donc le prochain épisode, c'est le 2 avril 2018. Je vous dis à très bientôt et salut et une belle vie à vous. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.